Marie Debruc qui nous a fait l'honneur et l'avantage de faire des diapositives pour parler d'un projet qui, là aussi, parle d'éducation. Elle va vous dire sous quel aspect.
Alors, merci beaucoup. En plus, je trouve ça hyper intéressant, la présentation précédente. Et j'ai vu qu'il y avait des réactions par rapport... Je ne sais pas comment s'appelle monsieur au fond de la salle qui a réagi.
Gaël Lagadec.
Voilà. Et je ne suis pas sûre que le fait de débuter l'injection seule soit lié à des messages de réduction des risques. Enfin, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est plutôt une question de la pression policière qui est plus importante, l'injection n'est pas forcément bien vue et qu'il n'y a plus du tout de transmission par les pairs. Enfin, il y a quelque chose de très tabou autour de l'injection qui est de plus en plus présent. Donc moi, je verrais plutôt ça comme ça et c'est confirmé par les observations de terrain. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir apporter, je l'espère, quelques éléments de réflexion à l'enquête, les résultats qu'on vient de voir. Donc, désolée pour ceux qui ont déjà eu une présentation autour du projet Early. J'espère quand même que ça permettra de poser le cadre pour ceux qui ne connaîtraient pas ce projet-là. Early, éducation au risque lié à l'injection. Je devais être avec mes deux responsables de mission, que je tiens quand même à citer, Valère Rogissard, donc qui a son genou qui est capote, et Elisabeth Avril, qui n'a pas pu venir, mais ce sont mes deux responsables de mission, et je tenais à les citer. Je ne vais pas revenir sur la problématique, parce qu'elle a déjà été exposée avant, donc autant avancer, pouvoir discuter, sachant que tout ce qui a été dit avant nous a conduit à mener ce type de projet, à réfléchir à comment on pouvait travailler avec les injecteurs. Je précise juste nos objectifs, je ne vais pas les relire mot à mot, c'est juste pour vous préciser une chose. Ce projet n'est pas une salle de consommation. Notre objectif n'est pas quantitatif, mais qualitatif. Je tiens à le préciser parce que souvent il y a des incompréhensions par rapport à notre projet et à ce qu'on pourrait en dire. Il ne faut pas confondre les deux. Notre objectif n'a pas pour but d'améliorer les conditions dans lesquelles les usagers s'injectent dehors. Il a pour but de rechercher l'autonomie des personnes et à ce qu'elles puissent mieux réduire les risques quand elles sont chez elles. Allez-y, parce que j'ose pas trop... C'est tellement fort, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale.
Mais tu es dans une cathédrale.
Oui, de la RDR. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement... Ouais, c'est super fort. C'est extrêmement important pour comprendre ce projet. Voilà. Donc soyez pas surpris par ce que vous allez voir après, et on pourra en discuter, mais c'était un choix. Voilà. On pourrait... On n'est pas contre les salles de consommation, c'est des choses qui se complètent. Mais en tout cas, nous, on était plus attirés par l'aspect individuel et éducation, et sur l'éducation, donc interventionniste. Hop, voilà. Sachant que, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et pour faire le parallèle avec les notions éducatives, on pourrait faire des parallèles avec des modèles déjà existants, à savoir d'une part la formation des personnels soignants et d'autre part l'éducation thérapeutique des patients. La formation des personnels soignants, parce que notamment les infirmiers ou des médecins pour des actes médicaux, on se rend bien compte que quand il s'agit de justement faire un prélèvement sanguin, poser un drain ou je ne sais, enfin voilà, faire une opération ou faire une couture, voilà, il y a certes des cours théoriques, mais à un moment donné, il faut de la pratique. Et c'est l'expérience qui fait qu'on aura une cicatrice superbe qui ne laissera pas de traces. Et voilà. Pour les usagers de drogue, c'est pareil. On aura beau avoir la théorie, à un moment donné, si on ne peut pas discuter de la pratique et nous-mêmes, intervenants, y voir quelque chose et intervenir dessus, ben on n'aura pas le même impact. Donc voilà, c'est évident dans un domaine, ça n'est pas pour l'usage de drogue. Nous espérons faire changer cette position et dire c'est évident que pour l'usage de drogue, pour réduire les risques au mieux, il faut aller dans la pratique et être témoin des consommations et travailler dessus en étant présent. Pour l'éducation thérapeutique des patients, c'est un peu pareil. Il y a plein de domaines qui ont montré que les simples transmissions d'informations n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait aller au-delà. Qu'il s'agissait bien d'acquérir des compétences spécifiques à la situation de la personne en tenant compte de sa situation de vie et son niveau de connaissance et de compréhension des messages. Pour les usagers, c'est exactement pareil. Donc encore une fois, pourquoi dans un domaine ça serait évident, comme le diabète par exemple, ou l'hypertension artérielle, et pourquoi pour l'usage de drogue, ça ne serait pas évident d'aller jusque-là. Il faut aller jusque-là pour qu'on soit efficace. C'est notre point de vue. Donc notre projet consiste à accompagner les usagers de drogue, c'est-à-dire être présent quand ils font leur injection, ils la font devant deux intervenants, le plus souvent pour Médecins du Monde en présence d'un infirmier et d'un éducateur à la santé. Ce qu'on appelle éducateur à la santé, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément éduxpé, mais en tout cas qui connaît suffisamment l'injection, les moyens de réduire les risques par rapport à l'injection et les produits et leurs effets. Voilà. Il faut juste s'y connaître suffisamment, mais tout s'apprend. Là, on a traduit inclusion, consommation, échange. L'inclusion, il y a toujours une phase où il faut se connaître un petit peu, il faut discuter. En plus, là, ma présentation ne portera pas du tout sur l'évaluation qu'on réalise avec Aide et l'équipe de chercheurs de l'INSERM de Marseille. Ça sera pour une autre fois, où il y a tout un protocole d'évaluation. Là, je vais vraiment m'axer sur la pratique de terrain et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une phase d'inclusion où on demande pourquoi la personne a envie de venir, qu'est-ce qu'elle a comme difficulté ou pas, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle a compris du projet. Donc nous, on peut lui réexpliquer le cadre de notre intervention, s'il y a un cadre. Elle ne peut pas venir comme ça et puis faire son shoot en 5 minutes et repartir. Ça prend du temps. Et ensuite, quoi qu'il arrive, avant chaque séance, même si on connaît la personne, on lui demande toujours qu'est-ce que tu as consommé dans les dernières 48 heures, qu'est-ce que tu veux consommer et à quel endroit, pour que ça soit clair. Après, du coup, on peut discuter, par exemple, là, ce n'est pas trop le cas sur Paris, sur les produits, puisqu'on est assez stabilisé sur les produits qu'ils injectent quand ils viennent, mais ça pourrait être le cas sur un point d'injection sur lequel on n'est pas d'accord, ou pas d'accord parce qu'on trouve ça trop dangereux. Imaginons un shoot dans un abcès, ça nous irait pas, donc on irait voir pour trouver un autre point d'injection ou une alternative à l'injection, ou parce qu'effectivement, dans le binôme présent, il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cette pratique. Exemple type, l'injection dans le cou. Dans l'équipe, tout le monde n'est pas à l'aise avec cette pratique. Ce n'est pas forcément un critère d'exclusion, de refus, mais ça va dépendre aussi des intervenants. Ça ne sert à rien non plus en tant qu'intervenant de se mettre en situation de difficulté si on n'est pas à l'aise avec ça. Donc ça, c'est aussi ce qu'on explique avant avec l'usager, qu'il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres pas. Et puis de toute manière, si on considère qu'il est trop défoncé, on lui dira, écoute, tu ne vas peut-être pas le faire aujourd'hui devant nous, ce n'est peut-être pas l'intérêt, surtout qu'en plus, on veut avoir une discussion et que ce soit un support éducatif. Donc si tu n'es pas en capacité de discuter, ça va être compliqué. Voilà. Mais à chaque fois, c'est sujet à discussion, c'est ça qui est intéressant. Même les refus peuvent être sujet à discussion. Donc ensuite, une fois que tout ça s'est accepté, on s'installe dans un endroit propice, soit c'est un local d'infirmerie dans une des structures dans lesquelles on travaille, soit c'est une unité mobile où on a un espace pour ça. On propose à la personne souvent de réaliser la première injection, si c'est la première fois qu'on la rencontre, telle qu'elle a l'habitude de le faire, de dire voilà, change pas tes habitudes, fais comme tu as l'habitude. Si vraiment il y a quelque chose qui nous choque, on peut intervenir, ou si par exemple elle se charcutait ou qu'elle n'y arriverait pas, bon, on pourrait intervenir. Mais voilà, sinon on la laisse maximum faire comme elle a l'habitude de faire. Et ce qui est important, c'est qu'on n'aide pas à l'injection. On n'est pas là pour ça, on est dans une recherche d'autonomie. Donc même si l'usager nous demande, ce qui est déjà arrivé, en disant là c'est bon, j'y arrive pas, faites-le, c'est non. Même tenir le garrot, c'est non. Je veux dire, vaut mieux lui apprendre à poser un garrot, mais on n'est pas là pour remplacer, faire du remplacement de quelqu'un. On peut accepter qu'un tiers soit présent, parce que si c'est la pratique habituelle de la personne, c'est intéressant. Mais ça ne sera jamais nous. Voilà. Et donc, on discute soit pendant l'injection, soit après. On demande aussi aux usagers s'ils sont à l'aise pour discuter pendant. On peut déjà demander des petites choses, est-ce que tu as l'habitude de faire comme ça, pourquoi tu fais comme ci, enfin voilà. Il y en a qui disent, moi, vous ne me parlez pas pendant, puis on discutera après. Donc voilà, ça, c'est à voir au cas par cas. Et surtout, ce qui est très important, c'est l'échange après, ce qu'on appelle l'échange éducatif. Voilà, on essaye d'analyser un peu la pratique. C'est une analyse partagée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, on ne va pas lui dire, bon, alors, bilan, nous te donnons 6 sur 10. Voilà notre point de vue. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de partir, en plus, de revenir à la demande initiale de la personne. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu voulais? Même si nous, des fois, on voit des choses peut-être qui pourraient nous choquer, parce que si on veut une injection parfaite, on va relever tous les points. C'est peut-être aussi revenir sur notre point de vue et prioriser ce sur quoi on va travailler, en accord avec la personne. Donc c'est ça, sans doute, qui est le plus difficile, parce que, et c'est ça qui est intéressant dans l'échange, c'est éducation de l'usager et de l'intervenant, c'est qu'il faut trouver un compromis. Si on est trop absolutiste ou trop sur « moi, je vais lui faire adopter le stérifiltre » ou « moi, je vais lui faire ceci », le mec, il va se casser, il n'en a rien à faire. Donc il faut trouver un compromis qui l'intéresse et qu'il y trouve un intérêt à venir. Et puis du coup, prioriser, et puis pas tout lui balancer d'un coup en lui disant « alors, il faudrait que tu fasses ça, 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 que tu changes ça, et voilà. » Donc ça, c'est vraiment la discussion. Et puis ce qui est intéressant, c'est la perception des risques qu'il en a. C'est comment l'éveiller à ça. Et puis aller jusqu'à aussi perception des risques. Quand on est dans l'environnement dans lequel on est en séance, qui est particulier, qui n'est pas le même que le sien, et la perception des risques quand il est dans telle condition, dans les toilettes, les sanisettes publiques, ou chez lui, dans une chambre ou autre. Donc ça, on essaye de varier. On a aussi créé une échelle de risque, comme les échelles de douleur, et on demande à l'usager de se positionner pour voir, lui, comment est-ce qu'il pense prendre des risques, et à quel endroit, et pourquoi. Voilà. Donc là, ça, c'était le principe global. Je vais rentrer maintenant un peu plus dans le... Il n'y a pas beaucoup de diapos, hein, donc je vais rentrer maintenant un peu plus sur le terrain pour vous expliquer les deux terrains et vous donner un peu une illustration de ce que peut y trouver. On a donc deux terrains d'intervention, puisque Médecins du Monde n'a pas de carude, n'a pas d'activité de terrain, hors les espaces festifs ou les missions squat. Donc on travaille d'une part avec un carude Sida Parole à Colombes, qui a une boutique, donc un lieu d'accueil, qui est ouvert tous les jours de 11h à 16h. Et d'autre part, on travaille avec le programme d'échange de seringues de Gaïa Paris à Gare du Nord et Gare de l'Est, principalement Gare du Nord, plutôt le soir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes files actives, ce n'est pas les mêmes contextes d'intervention. Une boutique, une unité mobile, ça n'a rien à voir. Et du coup, on a des difficultés et des profils très différents. À Sida Parole, on a une toute petite file active. Hein, sur la boutique, il y a une centaine de personnes qui viennent sur la boutique. Il y a seulement une trentaine de personnes qui pratiquent l'injection. Donc on est vraiment sur une micro-file active. Par contre, ils ont un profil très caractéristique, si je puis dire. C'est une quarantaine d'années, plutôt issue de l'immigration, notamment d'Algérie, avec une longue histoire de l'usage de drogue. Pour les injecteurs, une longue pratique de l'injection, beaucoup de consommation de médicaments, d'alcool, et aussi une résistance à l'éducation, dans le sens où ils n'ont pas envie de parler de leur pratique. On leur a toujours dit c'est pas bien, moins t'en parles, mieux tu te portes. Ils n'ont pas envie que ça se sache, même y compris vis-à-vis des autres usagers. Même dans leur histoire familiale, il y a des personnes, par exemple, peuvent avoir un frère qui est décédé d'une overdose ou du sida, et on va dire qu'il est décédé dans un accident de voiture. Donc il y a un vrai tabou autour de ça, et de dire faut pas en parler, faut pas que ça se voit, faut pas que ça se sache. Donc c'est très compliqué de travailler avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes à peu près avec lesquelles on travaille. Toutes n'ont pas fait d'accompagnement à l'injection sur la vingtaine parce que eux, ils préfèrent aller s'injecter dans les chiottes que d'aller faire une séance d'accompagnement. Ils n'ont pas envie d'être emmerdés. Et puis tant qu'ils arrivent à injecter, et puis ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, ils viennent quand ils n'arrivent vraiment plus et qu'ils sont au bout du bout. Le problème, c'est que du coup, ben, même nous, on n'est pas... On n'est pas des agents miraculeux, donc on ne va pas forcément leur trouver de veine. Et à ce moment-là, c'est plus la question du renoncement à la pratique de l'injection. Et ils disent, ben même le projet Early, ils n'y arrivent pas. Donc c'est compliqué, on réfléchit beaucoup à comment on peut les amener et à leur donner envie de venir plus tôt et de casser ce tabou sur les pratiques. Et puis ils injectent principalement donc de l'héroïne ou de la cocaïne. Sur le PS de Gaïa, rien à voir. Nous avons une file active importante. Hein, Gaïa, c'est 2600 personnes sur l'année. C'est 1500 personnes rencontrées sur les gares du Nord, gare de l'Est. Donc là, c'est beaucoup plus important. Une population très hétéroclite, avec beaucoup d'étrangers, que ce soit des pays de l'Est, principalement. On a aussi les punks, les anciens toxicos, qui ont connu toute l'histoire de Château Rouge, enfin voilà, qui pourraient nous en raconter des histoires longues comme pas possible. On a aussi les jeunes, alors ça peut être des jeunes effectivement punk à chien qui vivent à la rue, les jeunes qui sont en squat, donc un peu moins précaires et qui se débrouillent plus, ceux qui viennent de banlieue aussi, parce que comme on est au niveau des gares, c'est pas forcément des gens qui sont autour des gares, mais ils habitent parfois très loin. Donc ils viennent juste... En fait, la différence à Paris, c'est qu'on est sur le lieu de deal. On est sur le lieu de deal du Skénan et de la méthadone, principalement, pas très loin du site du crack, des vendeurs de crack. Donc du coup, on a cette population-là. Donc on a très peu d'injecteurs d'héroïne. On en a de cocaïne, mais du coup, souvent, quand ils viennent, c'est pour injecter du Skén. Et on a quelques injecteurs de Subutex, mais vraiment, le produit phare là-bas, c'est le Skénan. Et puis on a aussi dans la population très hétéroclite des jeunes, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais des personnes qui travaillent, qui sont insérées et qui, c'est à l'occasion, viennent chercher leurs produits, viennent chercher un peu de matériel parce que c'est là où il y a les structures et du coup repartent chez eux. Voilà. Donc on a aussi des personnes insérées et ça c'est très intéressant, je trouve, parce que je trouve que sur ce programme-là, on peut casser toutes les représentations des usagers de drogue habituels. À Gaïa, nous avons de tout. Nous recevons aussi les couples, hein, puisque c'est là où c'est intéressant, et de voir les interactions. C'est très compliqué de travailler avec les couples. Sur Paris, en ce moment, nous, on suit une quarantaine de personnes avec plein de profils différents et des difficultés différentes. Globalement, le travail qui est fait sur une séance, c'est pour vous dire qu'on n'est pas du tout dans une dynamique de salle de consommation, c'est que les entretiens ils durent d'une heure à une heure et demie. Et franchement, c'est minimum une heure, ça passe très vite. Et une fois qu'ils ont accepté de discuter, ça balance, quoi. C'est, ça y va. Le parcours de vie, on n'est pas seulement sur la question de la pratique de l'injection, hein, y a aussi des histoires familiales. Il y a aussi justement dans quelles conditions t'injectes, à quel endroit t'injectes, que ce soit les sites d'injection, mais aussi le contexte. C'est-à-dire, oui, chez moi, je peux pas, ou des changements de situation. J'ai été virée, j'étais chez quelqu'un, là, je suis à la rue. Voilà. Donc, on parle de tout ça, de la gestion de la consommation aussi. Hein, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partir. Et donc ça prend du temps, sachant que voilà, ce qui motive vraiment les personnes, c'est la recherche de veines, c'est souvent pour ça qu'ils viennent. Alors il y en a aussi qui viennent parce qu'ils ont envie de faire avancer la recherche, envie de faire ceci, c'est assez intéressant, parce que, voilà. Mais beaucoup c'est parce qu'effectivement ils ont du mal. Certains ont encore des veines, mais c'est juste qu'ils ne savent pas les chercher. Et ce qui est intéressant sur l'enquête qu'on voit là, c'est qu'effectivement, nous on a rencontré des usagers qui injectent depuis pas très longtemps, depuis quelques mois. On a rencontré des usagers qui ont appris à injecter seuls, dans leur chambre. On a même eu une jeune femme qui, au départ, ne savait pas qu'il fallait s'injecter dans une veine. Donc, en fait, elle se faisait de l'intradermo, quoi. Et elle a compris ça en regardant sur Internet. Donc, voilà, c'est pour vous montrer qu'on a des profils qui sont complètement inattendus. Ils existent, ils sont là. Et quand on voit les pratiques des jeunes, enfin, des jeunes ou des moins jeunes, mais c'est vrai que je parle des plus jeunes, des plus récents, ils ont, enfin voilà, eux injectés, c'est je me plante une aiguille, enfin je veux dire, ils cherchent, il y en a qui ont pourtant des boulevards, ils injectent n'importe comment, quoi. C'est assez étonnant de voir à quel point on part et qu'effectivement cette transmission par les pairs, elle n'est pas présente. En plus, on est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que on parle aussi beaucoup d'entraide entre injecteurs, donc on reçoit les couples. Il y a aussi toutes des interactions autour de ça, mais il y a aussi toute la question de est-ce qu'il t'arrive d'être aidé et est-ce qu'il t'arrive d'aider d'autres personnes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourra jouer là-dessus. Alors, c'est difficile d'en parler hein, parce qu'ils, c'est pas... eux, ils voient ça comme quelque chose de pas valorisant. C'est-à-dire de dire, moi, si j'aide quelqu'un, c'est vraiment parce que ça pissait le sang, je voulais pas le charcuter. Il y a une culpabilité par rapport à ça. Pour parler de l'initiation, il nous arrive d'en parler. Il y en a quelques-uns qui nous disent « oui, c'est moi qui l'ai injecté, qui l'ai initié » ou « oui, ça m'est déjà arrivé pour d'autres ». Mais il y a vraiment une culpabilité à parler de ça et ils ne sont pas à l'aise. Donc nous, on leur dit « attends, il ne s'agit pas de ça, au contraire, c'est peut-être un support, quelque chose d'intéressant et de valorisant, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'amener ces sujets-là ». Donc je trouve que du coup, l'enquête, elle est intéressante et nous, on espère, à travers le projet Early, avoir aussi des éléments qui sont intéressants et à la fois pour ceux qui aident les autres, bah, du coup, les valoriser dans ce rôle-là. Et ceux qui se font aider, ben au moins que s'ils se font aider, ils exigent aussi certaines choses des autres. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas d'exigence. Hein. Si tu me fais un shoot, ils demandent à peu près à n'importe qui s'ils n'ont pas leur partenaire habituel. Donc voilà, on travaille sur tout ça et je pense que c'est très intéressant. Donc je pourrais vous donner d'autres exemples plus précis si vous voulez, en fonction de vos questions. Il y a aussi Karim qui est bénévole ici dans la salle, juste là. Donc il pourra aussi vous faire partager son expérience et son point de vue. Il y avait Lionel, mais qui a disparu. Mais comme ça, ça vous donne, voilà, vous pouvez avoir différents points de vue sur les expériences qu'on peut avoir. Et pour finir, à moins que vous ayez donc des questions et qu'on reprenne certaines choses, bah, je voulais remercier nos deux partenaires Sida Parole et Gaïa Paris, parce que sans eux, le projet Early n'existerait pas. Et j'ai mis Aide et l'INSERM et l'ORS, puisque c'est avec eux qu'on développe le projet de recherche. Voilà. Et bien évidemment, les usagers, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose, et les intervenants. Voilà. Merci beaucoup. Qui marche très bien.
Oui, je l'avais coupé, mais bon, je l'ai tellement bien coupé.
Mais je pense qu'on t'entend. Hein.
Oui, mais je peux m'entendre sans micro.
Parle au micro, on en entend.
Ah, mais alors, bah, prends celui-là.
Alors, je prends celui-là. Marie a déjà parlé de ça dans une réunion de la Société d'addictologie francophone au mois de mars, et ce qui est important, c'est que l'éducation, vous voyez, c'est une démarche. Et entre la présentation que tu en as faite en mars et ce que tu dis maintenant, on va dire 7 mois après, je pense qu'il y a une réelle évolution que moi, je suis capable d'entendre parce que j'étais aux deux endroits. Et je dirais que le discours a aussi évolué parce que ce qui était... Enfin, je ne sais pas quelle va être la teneur des questions que tu vas rencontrer ici, mais souviens-toi, il y a 7 mois en arrière, les gens étaient extrêmement surpris de votre observation, de votre non-interventionnisme, etc. Et ils ne comprenaient pas. finalement, les gens étaient capables de vous dire mais à quoi vous servez, quoi. Et je dirais c'est vachement. Oui, c'était ça la question quand même. Et tu te souviens les questions que tu as pu avoir, c'était ça. Donc je dirais que maintenant, même vous avez compris mieux à quoi vous servez aussi. Mais je pense aussi que ce qui est important, c'est que les usagers ont compris quel pouvait être votre rôle. Est-ce que toi tu l'as senti sur le terrain cette évolution?
Bah oui, même au sein de l'équipe. Enfin, c'est évident que quand on se pose dans un projet comme ça, il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire que faire de l'éducation en récit d'injection, faire de l'accompagnement, ça s'improvise pas. Il faut trouver une juste attitude. Alors, au départ, c'est comment on présente ça à la personne pour qu'elle se sente à l'aise, ce qui n'est pas évident. Il y a des personnes qui refusent parce qu'elles n'ont pas envie d'être vues, parce qu'elles savent tout de la RDR. Mais il y en a qui sont quand même gênées d'être regardées. Et c'est, même pour nous, je pense que ce n'est pas évident et ça ne va pas de soi de dire « bon, vas-y, je te regarde shooter ». Donc, et comment on transforme, nous, nos observations, comment on les situe, parce que c'est la question de l'injection parfaite. On ne recherche pas une injection parfaite. Alors, c'est vrai qu'on a eu au départ, je pense, une position plutôt humble de dire « écoute, viens, on observera et puis c'est à toi de nous apprendre ». Alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, il y a des usagers qui disent « oh, moi, je suis passée par le projet Early, ils m'ont dit que c'était nickel ». Bon, après, ils se racontent aussi une histoire, ils ont envie d'être rassurés et de leur dire « vous faites bien ». Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi compris ce travers-là, de se dire « non, il faut aussi dire les choses, mais voilà, faut en dire, mais trop… » Enfin, voilà, si on est trop à dire « oh, ça va pas », alors là… ils ont extrêmement peur d'être jugés, aujourd'hui encore, hein, on le voit. Le plus difficile, je pense, que c'est ça. Ils ont peur d'être jugés, alors que nous, on veut pas, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là pour leur dire ce que tu fais, c'est mal. Il y a des prises de risques. Il faut les nommer, et c'est ça qui est subtil et qui est difficile à trouver ce juste milieu. D'où une éducation, c'est vraiment partagé. Et ce projet-là, il se construit usager intervenant. Et je pense qu'on apprend à chaque fois, avec certains usagers, avec d'autres, et puis bon, ceux qui sont venus au départ, c'était plutôt des usagers, soit qui avaient envie de soutenir le projet, quelques-uns qui étaient un peu exhibes, faut aussi le dire, et puis, non mais c'est vrai, il y en a qui le sont, et puis voilà, donc d'être plutôt humble et de les faire venir par ça, et ceux qui étaient vraiment en difficulté sont peut-être pas venus tout de suite, donc aujourd'hui, en plus au départ on n'avait pas l'unité mobile, donc quand je t'ai vu il y a 7 mois... L'unité mobile, en fait, on l'a commencé en janvier 2011, alors qu'en centre, on a commencé ça avant, il y a un an. Donc du coup, il y a un petit décalage, et c'est vrai qu'il faut se faire, et il faut trouver, il faut aussi accepter ce pourquoi on est là, et se dire, bah oui, moi j'ai mon point de vue, je peux le dire, mais il faut trouver que je trouve les justes mots.
Il y a un terme que j'ai beaucoup aimé dans ton intervention, tu ne l'as peut-être pas remarqué toi-même, c'est compromis. Je crois qu'il y a un compromis éducatif. Je crois que l'éducation, c'est et dans ce domaine-là, c'est certaines personnes amènent des choses, d'autres amènent d'autres choses, et de ces deux notions-là, c'est intéressant que puisse naître un compromis. On appellerait ça le compromis éducatif, quoi. Notre ami de Rennes.
Donc les deux intervenantes, en dehors de l'aspect épidémiologique, peut-être pour la première étude, et puis l'aspect éducation thérapeutique pour la deuxième, est-ce que ces études montrent quelque chose sur la motivation à l'injection, et est-ce qu'on peut voir une évolution dans ces motivations à la première injection ?
Alors. Pour ma part, c'est pas du tout la question qui est posée au départ quand on rencontre quelqu'un. Donc peut-être que plus tard, avec plus de recul, on pourra en savoir plus. Mais c'est pas du tout ce qui vient. Donc là, je préfère pas répondre là-dessus parce qu'on a trop peu de recul et que c'est pas du tout ça qui est au cœur de nos discussions principalement. Ça peut arriver dans la discussion. Hein, c'était le cas avec quelques usagers. En tout cas, j'en ai notamment une en tête. Parce qu'elle voulait se tuer. Voilà. Bon, elle est passée à l'héro au départ pour se tuer en sniffant, puis ça n'a pas marché, puis elle a pris goût, puis après l'injection. Mais ce n'est pas du tout représentatif et je n'ai pas envie de dire des choses qui ne seraient pas... Peut-être que plus tard, on aura plus de recul. Quand je dis ça déballe et qu'ils discutent, je pense que c'est des choses qui viennent. Mais si on cherche à savoir ça au départ, je crois qu'ils ne reviendront pas. Ce qu'il faut entendre, justement, c'est leur demande là. Moi, je veux réussir mon injection, j'en ai marre de galérer et de mettre je ne sais pas combien de temps, d'avoir peur de rater mon shoot. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Après, s'il y a d'autres choses qui viennent, c'est à l'usager de guider ça. Mais nous, on n'est pas sur ces aspects-là, voilà. Enfin, pour notre part.
Alors moi, pour ma part, je pense que je ne comprends pas bien la question. Replacer dans la problématique d'entrée dans l'injection, est-ce que vous voulez dire que les différents profils et le profil le plus récent, le fait qu'ils passent plus tardivement à l'injection, par rapport à la motivation à l'injection, je crois. Nous, en tout cas, on pourrait les approfondir, mais je serais un peu comme Marie. Je pense que sur la base, en tout cas, de nos résultats quantitatifs uniquement, ça paraît vraiment un peu prématuré de s'exprimer sur ces questions-là.
C'est une question pour Marie. Donc, tu as pris la précaution oratoire de dire que c'était pas Early n'était pas un projet concurrent aux salles de consommation à moindre risque. Toutefois, enfin, alors c'est peut-être un avis personnel, mais il me semble que c'est un niveau d'intervention en termes de réduction des risques qui va quand même bien au-delà de la remise de la seringue et l'usager s'en retourne. Donc je voulais savoir comment ceux qui aujourd'hui sont contre les salles de consommation à moindre risque, je pense aux autorités et à la MILT en particulier, comment ils reçoivent ça, déjà première question. Et surtout, est-ce que si le débat devait s'enliser sur les salles de consommation à moindre risque et si elles ne devaient pas voir le jour, ce qui est malheureusement reste une possibilité, est-ce qu'on pourrait envisager Early dispersé dans les cas rudes comme une alternative aux salles de consommation à moindre risque qui ne verraient pas le jour, dans l'hypothèse, hein, mais hypothèse malgré tout, en l'état actuel, là, c'est possible.
Alors, pour commencer par la première question, avant que ça soit repris par... Alors, c'est une pratique, ce projet Early est né au départ pour Médecins du Monde, hein, parce qu'il y a d'autres projets ailleurs par d'autres associations. Hein. Je veux dire, on n'était pas les premiers, on n'est pas là-dedans. Pour Médecins du Monde, la première fois que ça a commencé à naître, c'était en milieu festif. C'est Valère Rogissard, donc absent aujourd'hui, qui était responsable de la mission Rêve Paris et directeur de SIDA Parole, qui, voyant que c'était un projet intéressant, a voulu le mettre en place dans son CARUD. Et par chance, la moitié de l'équipe de son CARUD était issue de Médecins du Monde, dont notamment Pascal Pérez, initiateur de ce projet-là à Médecins du Monde. Donc, pendant 2-3 ans, en fait, il y a eu des négociations avec la DGS, avec la MILT, avec la DRACIF à l'époque, la DAS du 92 et les partenaires. Au départ, donc, il était question vraiment de négocier, de se dire, nous, on veut faire ce projet-là, mais on ne le fera pas sans votre accord. Ils ont toujours été intéressés par ce projet. À l'époque, en plus, le plan hépatite était en construction. Ils essayaient de pouvoir introduire un intitulé qui puisse, dans lequel on puisse glisser Early par la suite. Ils n'ont pas réussi. Nous, on leur avait clairement demandé si vous pensez que ce n'est pas la peine de continuer tout de suite. Ils ne nous ont jamais dit d'arrêter. Au contraire, ils étaient très intéressés. Je vais le dire pourquoi, mais ils ne nous ont jamais dit oui. Donc on n'a jamais pu commencer, personne n'a osé prendre cette responsabilité-là, et résultat, on a décidé que Médecins du Monde reprendrait ce projet-là pour utiliser le logo, hein, puis la notoriété de l'association, mais du coup en se basant effectivement sur des associations qui ont le terrain et qui avaient les acteurs prêts, Gaïa Paris et SIDA Parole. Nous, ils nous ont dit, hein, maintenant, c'est ce que je vous relate, hein, c'est pas qu'ils préféraient ça à des salles de consommation parce que pour eux, les salles de consommation à ce moment-là ne pouvaient pas passer pour eux. Et ils trouvaient que ce projet avait l'avantage d'être plus accessible, de paraître plus accessible et d'avoir un accès, quelque chose qui correspondait mieux au terrain d'intervention peut-être en France et qui paraissait pouvoir mieux passer en termes d'acceptabilité. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, je ne peux pas en dire plus. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas d'accord officiel. Hein. Personne n'a osé encore dire oui. La donne qui a beaucoup changé, c'est que comme on a un projet de recherche ANRS, financé par l'ANRS, en quelque sorte, on peut dire qu'on est un peu protégé. Avant ça, c'était plus délicat. Et par exemple, il y a des choses, on avait des affiches qu'on ne diffusait pas, des flyers qu'on ne diffusait pas. On était plus prudent. Je pense que maintenant, avec l'aval à NRS, ça permet d'être plus au clair. Pour autant, nous avons prévenu les ARS, nous avons prévenu la DGS, personne ne nous a dit « nous vous soutenons ». C'est le paradoxe. Ces personnes, je pense, veut dire « c'est moi qui ai dit oui à ce type de dispositif, que ce soit Orly ou des salles de conso ». Après, pour la suite de l'histoire, nous, on est parti sur ce projet-là parce qu'on considérait que c'était effectivement plus acceptable et qu'en plus, l'avantage par rapport à des salles de consommation, c'est que ça peut effectivement se diffuser dans tout type de structure. Enfin, moi, je sais ce que j'espère, c'est qu'après, une structure, quelle qu'elle soit, puisse à un moment donné, avec un usager, si elle considère que la discussion autour de l'échange de seringues n'est pas suffisant, qu'elle puisse aller au-delà. Voilà. Après, si une structure veut aller plus loin et parce que se pose la question des consommations dans des endroits non prévus pour, ou vraiment dans des endroits qui craignent, mettre en place une salle de conso, en plus il y a tout type de taille de salle de conso, moi je trouve ça intéressant, je suis pour. Voilà, Médecins du Monde ne pouvaient pas tout faire, donc ils ont choisi d'abord ça. Maintenant, moi j'espère qu'on pourra faire de leur lit dans des salles de conso et on pourra faire de leur lit hors salle de conso. Voilà, c'est pas les mêmes objectifs.
On va arrêter parce qu'on est hors time.
Oh non, mais on pourra discuter après.
Après, elle vous donnera son numéro de chambre, son hôtel. Bon, moi, je vous le donnerai. Quoi. Merci. C'est bien de voir. On va accueillir Marilyn Reynal qui va nous parler de l'accompagnement à l'observance thérapeutique chez les usagers de drogue. Donc, une autre version éducative des choses. Mais c'est bien de voir. Je suis plus heureux de vous frustrer en supprimant des questions que de voir des salles où personne n'a rien à dire.
Voilà, donc bonjour.
Attends.